Une nouvelle série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la langue française à quelques semaines de la journée de la langue française qui donnera lieu donc juste sur notre antenne à une journée spéciale le 14 mars prochain autour de cette langue. Ce lundi, après un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre froide, nous recevrons l'historienne Jenny Raflick qui analyse dans son dernier livre paru chez Gallimard les liens qui unissent terrorisme et mondialisation. Avant de recevoir, pour ouvrir notre semaine consacrée à l'histoire de la langue française, Irène Fenoglio, linguiste qui a coordonné dans la collection Fiction et compagnie du Seuil un ouvrage collectif autour d'Émile Benveniste, professeur au Collège de France et auteur des problèmes de linguistique générale. Mais tout de suite, eh bien, puisque nous sommes lundi, comme tous les lundis, un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre froide concocté par Anaïs Quien, le 24e, aujourd'hui, le coup de Prague en 1948.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
are national armies if war.
Ah, all directly
members of ourselves here
by this evil power.
Then ya beginning then war.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. 1948. Les ministres sociodémocrates de la Troisième République tchécoslovaque démissionnent, espérant provoquer des élections anticipées à leur avantage. Histoire d'une dissolution ratée qui installe les communistes au pouvoir.
La crise tchécoslovaque est finie. À l'appel des sirènes, les ouvriers rassemblés par le Parti communiste se sont rendus en bon ordre au rendez-vous que leur avait donné sur la place de l'Hôtel de Ville le ministre Gottwald, leur chef. Les actualités françaises présentent ici le film de ces journées pendant lesquelles les yeux du monde entier furent, comme en 1938, fixés sur Prague. Du balcon de l'Hôtel de Ville, M. Clément Gottwald, dans le but d'éliminer les ministres non communistes, a appelé ses partisans à l'état d'alerte et pressé la création de comités chargés d'appuyer son action. Au Radžin, palais des anciens souverains, le président Beneš, après de longues hésitations, a accepté la formation d'un gouvernement dirigé par le Parti communiste. Très touché par cette crise, il s'est ensuite retiré pour quelques jours dans sa maison de Tobor. Cependant, l'attention du monde reste fixée sur Prague.
Cet extrait des actualités françaises date de mars 1948.
Justine Faure.
Donc, postérieure à la crise de février 1948, puisque la crise se déroule du 20 au 25 février. Donc, on est à peu près 10 jours après la crise. Et donc, ce que je trouve intéressant dans le document, c'est à la fois ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il dit et qui correspond à ce que les historiens peuvent dire de ce fameux coup de Prague de février 1948, hein, il montre bien la capacité du Parti communiste tchécoslovaque à mobiliser les foules. Il montre bien les milices ouvrières, ce qu'il ne dit pas, mais parce qu'il n'a pas le temps, il y a des appels à la grève générale. Cette capacité donc du Parti communiste à mobiliser les foules est bien montrée dans le document et conduit à une atmosphère de guerre civile, hein, pratiquement, ou en tout cas qui va être perçu comme ça par le président Beneš. Il montre bien la position difficile de Beneš, qui par la suite sera très critiqué pour avoir finalement cédé à la foule et à cette mobilisation orchestrée par le parti communiste, puisque en effet Beneš va, pour préserver l'unité de la nation, accepter finalement de composer un gouvernement donc entièrement constitué de ministres communistes. L'autre élément qui revient au moins à deux reprises, c'est de souligner à quel point les yeux du monde sont fixés sur Prague. Et là, on n'est pas du tout dans du sensationnalisme journalistique. C'est une réalité que le coup de Prague va attirer une attention extrêmement étape importante et avoir un retentissement qui peut-être dépasse finalement la réalité de l'événement. Et donc l'analogie historique fonctionne à plein. En 1938, la chute de la démocratie tchécoslovaque a annoncé l'expansionnisme nazi et la Seconde Guerre mondiale. Et donc en 1948, avec évidemment ces dates en 8 qui marquent l'histoire tchécoslovaque, est-ce qu'en 1948, la nouvelle chute de la démocratie tchécoslovaque n'annonce pas l'impérialisme stalinien et une troisième guerre mondiale, ou en tout cas une stratégie de Staline pour conquérir l'Europe occidentale, voire le monde. Il y a un deuxième élément qui explique le choc causé par les événements de Prague, c'est la facilité en fait par laquelle les communistes prennent le pouvoir. Et alors que justement beaucoup d'Occidentaux pensaient que la Tchécoslovaquie a raison et la seule démocratie en Europe centrale et orientale, comment expliquer que sans effusion de sang, si facilement cette démocratie tombe? Et là, vraiment, le document est très exact sur ce choc causé par le coup de Prague. En même temps, ce qui est intéressant, il date de mars 1948. La crise, finalement, n'est pas finie parce que le 10 mars 1948, Jan Masaryk, donc le ministre des Affaires étrangères et le fils du père de l'indépendance tchécoslovaque, se suicide. Donc il y a eu pendant longtemps une incertitude. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été assassiné? Il semble que les historiens spécialistes de la question penchent plutôt sur le suicide. Et la mort, en tout cas, de Jan Masaryk, donc le 10 mars 1948, donc 6 jours après ce document, va relancer la crise et va remettre la situation tchécoslovaque à la une de la presse occidentale. En même temps, ce que le document ne montre pas, c'est les erreurs des démocrates tchécoslovaques. Il y a cette phrase où il explique que Gottwald harangue la foule. Gottwald, qui est donc le chef du parti communiste tchécoslovaque, donc harangue la foule. Le journaliste explique que cette mobilisation a pour but d'éliminer les ministres non communistes du gouvernement. Et ce qui est important de noter, c'est que les ministres non communistes du gouvernement se sont éliminés tout seuls, puisque le 20 février, ils ont démissionné, ou en tout cas une partie des ministres démocrates ont démissionné, espérant par cette démission dissoudre le gouvernement et que cette dissolution amène à la convocation d'élections anticipées. Et donc là, il y a eu une erreur majeure des démocrates tchécoslovaques qui est fondée à la fois peut-être sur une forme d'amateurisme, mais aussi et surtout sur cette sous-estimation qu'on retrouve tout le long de cette période-là, une sous-estimation de l'emprise du parti communiste et la certitude que cette démocratie ne peut pas tomber. On a l'impression d'un coup d'État, mais en même temps, tout se fait dans la légalité. Et finalement, ce qui fait que sur le terrain, c'est pas un coup d'État, et donc c'est évidemment moins impressionnant que ce qui peut apparaître dans cette actualité de mars 48.
Voilà pour ce nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, le 24e, signé Anaïs Quin et Françoise Camard. Et comme d'habitude, vous pouvez le télécharger séparément des autres émissions de La Fabrique de l'Histoire pour pouvoir les garder avec vous et vous faire une collection autour de ces sons et de ces explications sur la Guerre Froide, donc préparée par Anaïs Quin. Bonjour Général Flick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez participé d'ailleurs à certains des numéros de La Fabrique de la Guerre Froide, mais vous n'êtes pas là pour nous parler de cela, mais de votre dernier ouvrage, donc qui vient de paraître aux éditions, ou qui va paraître, parce qu'il paraît, il est tout juste paru, ou il paraît cette semaine?
Il paraît le 25.
Voilà, il paraît cette semaine chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Sciences Humaines. Il s'intitule « Terrorisme et mondialisation, approches historiques ». Alors voilà un livre qui ne va pas faire plaisir à notre Premier ministre, en l'occurrence Manuel Valls, puisqu'il avait dit au mois de janvier, à propos de la commémoration des attentats autour de Charlie Hebdo et également de l'hypercachère, que la sociologie, les sciences humaines tentaient d'expliquer le terrorisme, et que expliquer, disait-il, c'est déjà un peu excusé. Or vous, pendant 350 pages, vous tentez d'expliquer ce phénomène du terrorisme et ce phénomène de la mondialisation croisée avec le phénomène du terrorisme, Général Flick.
Alors effectivement, cette déclaration est assez paradoxale. Alors d'abord, il n'est pas le premier à le dire, parce qu'on remarque que beaucoup d'ouvrages sur le terrorisme commencent par une petite mise en garde d'auteur disant « on va expliquer mais on ne va pas légitimer, attention, c'est pas parce qu'on étudie qu'on ne cautionne pas ». Donc il est sans doute pas le premier à avoir sous-entendu qu'il pouvait y avoir des liens. Mais le paradoxe, c'est que justement les premières études sur le terrorisme, et ce sont les sources que j'utilise en grande partie dans ce livre, ont été commandées par ceux qui étaient en charge de la lutte antiterroriste, qui ont eu besoin de comprendre beaucoup d'études, notamment de menées par des sociologues, mais ont été des commandes du ministère de l'Intérieur allemand dans les années 70-80, des études commandées par la justice pour essayer de comprendre quels étaient les profils des terroristes, voir comment on pouvait lutter, c'est-à-dire les identifier plus facilement. Donc en fait, beaucoup de sources sont, sur le terrorisme sont issues de la lutte antiterroriste. Mmh. C'est vraiment l'origine première.
Alors vous vous fâchez avec le Premier ministre déjà, puis vous allez peut-être vous fâcher avec le Président de la République, parce que à la page 323 de votre ouvrage, vous dites « Si la lutte contre le terrorisme est une guerre, on nous dit que c'est une guerre, eh bien le terroriste devient alors un combattant et non plus un criminel, ce qui renvoie au droit de la guerre et plus au droit pénal, et est une revendication justement de la plupart de ces terroristes, dites-vous, Jenny Raflick. »
Alors, je suis vraiment désolée, ça a été écrit avant.
La déclaration à la guerre.
Voilà, c'est un livre que j'ai écrit même avant, en grande partie avant que Daesh n'émerge vraiment. Donc ça a été écrit avant les attentats de janvier, avant les attentats de novembre et avant le
terme de guerre au terrorisme.
Voilà. Alors, en fait, non. Parce que la rhétorique guerrière, elle est beaucoup plus ancienne qu'on le pense. L'expression « guerre guerre au terrorisme », elle commence à apparaître, elle apparaît en France, avant les États-Unis, dès les années 80. C'est une inflexion très progressive, mais c'est l'évolution se fait en décalage entre la rhétorique guerrière, je dirais, des praticiens et celle des hommes politiques. Le discours politique qui utilise ce mot est plus récent, mais dès les années 80, en fait, on commence à impliquer l'armée dans la lutte antiterroriste.
Oui, vous expliquez d'ailleurs que c'est le moment de passage de témoin, pourrait-on dire, ou la passation de pouvoir entre la police et la défense. C'est-à-dire que c'est la défense qui va prendre, à partir de ce moment-là, des années 1980, qui va prendre en charge la question de la lutte antiterroriste, alors qu'auparavant, c'était plutôt les policiers.
Voilà, la question de la lutte antiterroriste rentre petit à petit dans le livre blanc. Et puis, parce que le terrorisme est international, ça devient une question diplomatique. Ça s'inscrit à l'agenda des relations internationales, assez tôt d'ailleurs, bien avant les années 70-80. Et puis, très rapidement, on implique l'armée, que ce soit à l'intérieur. Alors, en France, c'est le plan Vigipirate, que tout le monde connaît, mais à l'extérieur. On oublie parfois que très tôt, dès les années 80, pour répondre à certains attentats, en 86, Reagan fait bombarder Tripoli après un attentat à Berlin-Ouest. La réponse militaire extérieure, elle est ancienne aussi.
Alors on voit bien que ce qui compte dans votre titre, c'est la jonction entre le terrorisme et la mondialisation, mais le sous-titre est important aussi, approche historique, parce que c'est en historienne que vous abordez cette question-là. Et en tant qu'historienne, vous dites... On est parfois insatisfait des livres ou des commentaires sur la question du terrorisme parce que justement, ils sont trop souvent dans une sorte d'actualité. La plupart d'entre eux sont produits, dites-vous, par des journalistes, par des éditorialistes. Et il y a peut-être un manque d'approche historique sur la longue durée parce que c'est difficile, tout simplement, cette approche historique du terrorisme. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle terrorisme ? Est-ce que les zélotes décrits par Flavius Joseph pendant la guerre des Juifs, sont des terroristes ? Est-ce que les assassins, la fameuse secte des assassins au XIe siècle, du côté du Moyen-Orient, ce sont des terroristes ? Ou est-ce qu'on commet une erreur impardonnable d'historien ou d'historienne en les rapprochant ces phénomènes avec les phénomènes contemporains, Jenny Raflick ?
Alors la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que le phénomène, ce type de violence, le type terroriste, le mode opératoire, préexiste au mot. Le mot, il apparaît tardivement. Le mot, il est contemporain. On le voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle. Et encore, son évolution, on parlera de la langue tout à l'heure, mais le mot change de sens, en fait, au fur et à mesure, puisque au départ, c'est un mode de gouvernement par la terreur. Le mot apparaît pour désigner Robespierre et la terreur révolutionnaire. Et puis, petit à petit, ça devient, au contraire, le combat contre un gouvernement. C'est d'ailleurs exactement l'inverse. Donc il est difficile d'utiliser un mot qui n'existe pas pour désigner des phénomènes, mais qui s'en rapprochent, qui sont indéniablement très très similaires en termes de mode opératoire. Mais cette question de la définition du terrorisme, elle est fondamentale parce que concrètement, il n'y a pas de définition, aussi paradoxale que ça puisse être, il n'y a pas de définition du terrorisme.
Il y a à peu près 50 ou 60 pages en ouverture du livre pour essayer de nous raconter justement cette difficulté qu'ont eu les instances internationales en particulier à faire une définition. Alors, l'Europe a sa définition, chaque pays a sa propre
chaque
définition.
Chaque pays européen a sa pays, définition.
Oui, mais l'Europe a une tentative de définition commune et puis l'ONU a eu une tentative de définition, le SDN aussi avait pensé à avoir une sorte de tentative de définition avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que effectivement, c'est un phénomène qui est complexe parce que simplement, il met en cause des États, il met en cause des groupes qui revendiquent le fait de faire tomber des États et que, évidemment, parfois, certains États soutiennent ces groupes qui veulent faire tomber d'autres États et qu'il est compliqué, dans une instance internationale, par exemple, d'avoir une définition commune, général Flick.
Alors, il est compliqué d'avoir une définition commune. En fait, la question de la définition est même devenue un enjeu des relations internationales. Elle l'est depuis la conférence contre le terrorisme anarchiste de 1898.
Alors ça, racontez-nous, parce que c'est une des découvertes, enfin en tout cas de ma part, en vous lisant. Donc, dès 1898, plusieurs pays se rassemblent en Italie pour pouvoir tenter de faire une sorte de contre-attaque des États contre le terrorisme anarchiste fin de siècle. Et ça sera le début, maigre début, dites-vous, de ces tentatives d'unification des positions des États vis-à-vis de ces questions terroristes.
C'est le point de départ de la lutte antiterroriste à l'échelle internationale. Alors 1898, ça correspond, la date n'est pas un hasard, c'est l'assassinat d'Élisabeth d'Autriche qui est l'élément déclencheur. Un élément déclencheur pour plusieurs raisons, ce qui voir un peu dans le contexte de l'époque. D'abord parce qu'il y a une très grande émotion populaire, il y a une pression de l'opinion publique très forte pour demander des réactions. Et puis, avec l'assassinat d'Élisabeth d'Autriche, on a une Autrichienne assassinée par un Italien en Suisse. On ne peut pas avoir une réponse, et là je pense à une réponse juridique policière, qui soit purement nationale.
Et vous dites d'ailleurs que ça crée une ambiance de panique dans les chancelleries, cet assassinat.
Il y a une véritable, c'est tout à fait... Là, on est dans l'émotion du moment de cet assassinat, il y a une succession de rumeurs qui vont parcourir au-delà des frontières européennes, puisqu'on craint un coup de force en Égypte. Enfin, plein de rumeurs se succèdent. Il y a une vraie panique des chancelleries après cet assassinat qu'on imagine comme le point de départ d'un complot ou de quelque chose de grande ampleur. Et puis, cette conférence de 1898 est donc convoquée à Rome parce que c'est une initiative italienne. Les Italiens y voient l'occasion... Beaucoup d'anarchistes italiens, bien sûr, responsables de ces attentats. Les Italiens y voient l'occasion de redorer un peu leur blason en initiant cette conférence. Et puis très vite, on se rend compte dans les débats qu'il y a une opposition très claire entre deux visions. Les pays libéraux qui veulent cibler la violence terroriste, anarchiste.
La France et la Grande-Bretagne.
La France, la Grande-Bretagne, la Suisse. Et puis des régimes autoritaires, les empires autoritaires, qui eux y voient l'occasion d'instrumentaliser la lutte contre le terrorisme et de lutter contre tous leurs opposants politiques, notamment la Russie, l'Allemagne, mais la Russie évidemment encore plus. Et du coup, on tombe vraiment dans les discussions, dans un dialogue entre pays pratiquant le droit d'asile. Enfin, tout va tourner autour du droit d'asile. Pays pratiquant le droit d'asile et pays espérant renforcer la lutte. Au niveau diplomatique, le résultat n'est pas forcément important, mais cette conférence, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre une collaboration des polices. C'est le début d'une collaboration des polices. Parallèlement aux discussions diplomatiques, il y a d'autres réunions entre les quelques chefs de police européennes. Et puis, c'est le début de la diffusion de la méthode de Bertillon, ce qu'on appelle le portrait parlé, qui va permettre une collaboration efficace. Donc, pas forcément très visible au niveau politique ou au niveau des opinions publiques, mais on a le point de départ d'une vraie coopération.
Puis ce qui est très intéressant dans cette conférence de 1898, c'est qu'on voit que les Italiens n'ont pas tellement envie qu'on extrade sur leur territoire les anarchistes italiens, parce que sinon ils vont tous les récupérer chez eux. Et on voit bien les discussions qu'il y a aujourd'hui sur la question de l'extradition, qui sont intéressantes, ou encore que 2 ou 3 ans plus tard, simplement parce que les États-Unis n'ont pas encore été touchés, les Américains vont se sentir un peu concerné à partir du moment où le président McKinley est mort en 1901 sous les balles d'un anarchiste et que là, Theodore Roosevelt va dire au Congrès, l'anarchie est un crime contre l'espèce humaine et toute humanité devrait s'unir contre l'anarchiste. Donc c'est simplement à ce moment-là que les États-Unis rentrent dans la danse et encore pas véritablement parce que vous expliquez
pas,
que
pas
un peu plus tard, en 1904, un protocole va unir des pays plutôt autoritaires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Russie et d'autres, et que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France vont être un peu à l'écart, justement, volontairement, de ce protocole d'accord international signé à Saint-Pétersbourg en 1904.
Alors, les États-Unis ne se sentent pas concernés, parce que malgré ce discours de Roosevelt, qui est très intéressant, parce qu'il va très loin, mais il n'est pas suivi des faits, les États-Unis voient le terrorisme anarchiste comme un désordre européen importé et ils le voient comme un problème lié à l'immigration et seulement à l'immigration. Et d'ailleurs, la réponse des États-Unis, c'est la loi contre l'immigration anarchiste. Qui est une loi un peu étonnante puisque c'est cette loi contre l'immigration anarchiste en profite pour exclure de l'immigration les gens trop pauvres, les malades, les prostituées ou ceux dont les mœurs seraient incompatibles avec les valeurs américaines. Mais c'est vraiment vu comme un problème extérieur aux États-Unis malgré l'assassinat de McKinley. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal puisque la loi qui est votée en réaction n'aurait en aucun cas pu sauver la vie de McKinley, qui a été tué effectivement par un anarchiste d'origine polonaise, mais qui est né aux États-Unis. Ce sont ses parents qui ont immigré, pas lui. Et
problème
ses
de
parents...
la binationalité des
Exactement. Exactement. On voit
France.
Vraiment cette problématique déjà à l'époque. Et puis ses parents n'étaient pas anarchistes, donc n'auraient pas été concernés par la loi.
Oui, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de vous suivre dans votre livre Terrorisme et mondialisation, approche historique, Jenny Raflick, sur la longue durée, puisque vous expliquez qu'une fois mise en œuvre ces premières coopérations à la fin du 19e siècle, au début du 20e, entre les polices, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à avancer, justement, dans cette définition du terrorisme, dans cette capacité d'agir contre les supposés terroristes, que juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, un juriste comme Raphaël Lemkin, à qui on doit en particulier la définition du terme de génocide, se pose la question de savoir si c'est nécessaire ou non de créer un nouveau délit du droit des gens, parce que ça n'est pas du droit de la guerre, en l'occurrence du droit des gens, à propos de ce terrorisme des années 30, par
Alors,
exemple.
Alors, il est chargé de faire un rapport sur cette définition du terrorisme dans le cadre des réunions pour l'unification du droit pénal, et il rend un rapport où il est très clair, où il dit que c'est superflu, qu'il est totalement inutile de créer un nouveau cadre juridique qu'on appellerait le terrorisme. Alors il a une formule assez... Je n'ai plus la formule en tête exacte, mais en gros il dit que c'est une formule de journaliste, voilà, mais que c'est pas une formule de juriste.
De juriste.
Le terrorisme, c'est pas un cadre juridique.
Alors évidemment, ça évolue avec la mort donc du roi de Yougoslavie et Louis Barthou à Marseille en 1934 sur la Canebière, parce que à ce moment-là, on se dit il y a peut-être des États qui, d'une certaine façon, protègent ceux qui sont les terroristes ou ceux qui assassinent. Et là, on a aussi des problématiques qui sont assez proches de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et que ces États, eh bien, par exemple, ça peut être la Hongrie qui a laissé s'entraîner sur son sol des terroristes macédoniens ou croates qui ont perpétré cet attentat contre le roi de Yougoslavie et le ministre des Affaires étrangères français en 1934 à Marseille.
Alors là, on voit, c'est un épisode extrêmement important parce qu'on voit bien à quel point la question terroriste est instrumentalisée dans le cadre des relations internationales. La SDN va se saisir de la question du terrorisme, donc après cet assassinat d'Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou. L'assassinat, la mort de Louis Barthou avec, permet à la France de rentrer un petit peu dans le jeu. Puisque la SDN est au départ saisie, non pas sur la question du terrorisme, mais elle est saisie par la Yougoslavie qui dépose un dossier contre la Hongrie, en accusant la Hongrie d'un assassinat politique, quasiment d'un acte de guerre. Et la Hongrie répond à la Société des Nations en disant que il y a peut-être un mouvement politique violent en Hongrie, mais que c'est la faute du traité de Trianon. Et là, la France, c'est Pierre Laval, se dit qu'il faut détourner, il faut pas qu'on commence à discuter à la Société des Nations de la révision des traités de paix. Et donc le terrorisme est un dérivatif. Pour éviter de parler de la question des traités de paix, la France propose de parler de terrorisme et le qualificatif revient. Et d'ailleurs, le premier travail de ce comité, c'est de réfléchir à une définition du terrorisme, ce qu'ils ne font pas. Alors, ils vont faire des listes, ils commencent, et là c'est le début finalement de ce qu'on voit se développer dans les relations internationales jusqu'à aujourd'hui, la Société des Nations fait des listes. Liste de types d'attentats pouvant être qualifiés de terroristes, liste de cibles pouvant être qualifiées de terroristes, liste d'organisations, l'ONU, les Européens, les Américains continuent depuis à faire des listes, qui sont d'ailleurs différentes. Il y a quand même un point important sur ces travaux de la Société des Nations, c'est que la lutte contre le terrorisme, alors ça va donner lieu à une convention pour la répression du terrorisme international qui n'est pas ratifiée parce que la Seconde Guerre mondiale éclate, mais ça donne lieu surtout à une convention pour mettre en place une cour pénale internationale qui aurait dû siéger à La Haye et qui aurait dû être en charge des crimes de terrorisme. Ça tombe totalement dans l'oubli. Et ça a été réévoqué récemment par Robert Badinter, qui a fait cette proposition après les attentats de janvier. Donc on voit que la Société des Nations avait peut-être plus avancé qu'on ne le pense dans cette question de la lutte antiterroriste.
Alors, on voit bien dans votre livre que les approches historiques sont nécessaires pour pouvoir comprendre et ne pas se laisser emporter par l'actualité, ne pas être emporté par le grand mouvement des éditoriaux. Vous expliquez en particulier que le terrorisme se suffit rarement à lui-même et qu'il doit toujours être corrélé à d'autres types d'actions. C'est-à-dire que, et là vous élaborez une théorie de temporalité pourrait-on dire, vous dites il y a un trio qu'il faut mettre en œuvre quand on s'intéresse au terrorisme, la question de l'action instantanée, de la durée et du moment. Vous pouvez nous résumer ce que vous voulez dire par là, Jenny Raflick ?
Alors, c'est effectivement, dans le terrorisme, on a un emboîtement des temporalités qui apparaît assez évident et qui là semble effectivement se répéter du 19e jusqu'à aujourd'hui. L'attentat terroriste, il est dans l'instantané.
Bien sûr.
C'est l'émotion.
C'est l'effet.
Voilà, c'est l'effet instantané.
L'effet de souffle.
Qui peut produire une émotion, qui peut produire des effets démultiplicateurs plus ou moins importants, mais on est dans l'acte. Ça renvoie à un projet, et un projet politique qui, lui, n'est pas dans l'instantané. Le terroriste, il vise pas seulement à terroriser sur le moment, il vise à imposer quelque chose. Il a des revendications, il a des objectifs qui sont des objectifs politiques. Et il est très rare, effectivement, que les organisations terroristes ne soient que terroristes. Et c'est ça qui complique, d'ailleurs, la lutte antiterroriste. C'est qu'on va voir une articulation, alors parfois très complexe et multiple, une articulation avec des mouvements politiques, avec un discours politique, intellectuel, des revendications et la tentation de poursuivre le combat par des voies légales. Parallèlement, on a aussi des liens, notamment pour les financements, avec la criminalité pure. Et puis on a un prolongement, une articulation entre plusieurs modes opératoires militaires. Le terrorisme, c'est un mode opératoire qui va s'articuler avec la guérilla et parfois la guerre classique. Alors je prends l'exemple des Tamouls, parce que chez les Tamouls, on a tout à la fois.
Ouais.
Mais vraiment tout.
Les tigres tamouls,
la dimension politique, le trafic de drogue pour financer, une guerre classique, ils ont même une marine, l'utilisation de la guérilla, du terrorisme, on a tout. Voilà. C'est toujours cette multiplicité des modes d'action qui fait qu'on tombe toujours sur une question, en fait. Est-ce que une organisation terroriste doit être qualifiée d'organisation terroriste parce qu'elle pratique le terrorisme, ou est-ce que c'est juste le type d'action qui doit être qualifié de terroriste? Et on bute dans les organisations internationales autour de cette question et cette définition.
Eh bien, on a compris qu'il faudra vous lire. Le livre sort dans 3 jours, le 25 février, chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Sciences Humaines, Jenny Raflick, et il nous clarifie beaucoup les choses dans ce domaine du terrorisme, où on a compris beaucoup de sciences humaines patinent, ont du mal à définir, à comprendre ce qui se passe exactement, et surtout à le mettre dans la longue durée historique, ce que vous faites. Merci encore d'être venu nous présenter votre ouvrage.
Merci.
France Culture,
la fabrique de l'histoire,
Emmanuel Laurentin.
Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Merci, c'est vous qui avez préparé cette semaine de la Fabrique de l'Histoire et le documentaire qu'on entendra demain autour d'un personnage que personnellement j'avais oublié, ou même peut-être jamais connu dans l'histoire française. Il s'appelle Nitard et on a retrouvé ses ossements et vous êtes allé assister avec Véronique Samouilov à la fois une cérémonie autour de ce personnage. Et pourquoi ce Nitard a-t-il un rapport avec la langue française dont nous allons parler toute la semaine?
Eh bien, Nitard, qui est le fils de Berthe, qui est elle-même la fille de Charlemagne, Nitard est le premier qui a écrit, qui a couché sur le parchemin des mots en français. en proto-français. Ces mots, ce sont ceux des serments de Strasbourg, échangés entre Louis le Germanique et Charles le Chauve au moment du partage de l'empire carolingien. Et ces serments ont été prêtés en langue vernaculaire et Nithard a compris la force du symbole des langues et donc écrit les premiers mots de notre langue française. C'est pour ça qu'on a centré que notre documentaire pour cette semaine sur la langue française lui est consacré.
Alors Irène Finoglio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, vous êtes directrice de recherche à l'Institut d'Histoire, à l'Institut des textes et manuscrits modernes au CNRS, et vous publiez avec Jean-Claude Coquet, Julia Kristeva, Charles Malamud et Pascal Quignard dans la collection Fiction et compagnie, au Seuil, un autour d'Émile Benveniste, donc Émile Benveniste, qui s'intéressait, surtout à la fin de sa vie, à cette question de l'écriture et du passage de la langue parlée à la langue écrite. Et vous dites tout compte fait que ça n'est pas si fréquent chez les linguistes que de s'intéresser à cette question de l'écriture, qui est au cœur du documentaire qu'on entendra demain.
Bien, oui, beaucoup de linguistes se sont intéressés à l'écriture, mais comme le dit lui-même Benveniste, à la langue écrite, qui n'est pas... Et Benveniste, oui, à la fin de sa vie, mais... dans plusieurs articles précédents, il disait il y a tout ce pan de la métalinguistique, de l'écriture, de l'énonciation écrite dont il faudra un jour s'occuper. Et en regardant les archives, puisque mon travail est d'aller voir les manuscrits d'Émile Benveniste et de voir la façon dont un concept chez lui peut prendre vie, naît à partir de la façon dont il tente de l'écrire, je suis tombée donc sur ces cours de 1968-1969.
Juste avant qu'il soit victime d'un AVC.
Absolument, donc, puisque dans les dernières leçons, nous avons toute l'année 1868-69, plus la toute dernière leçon en 69 avant son attaque. Et donc, je découvre là dans ces manuscrits qu'il y a 8 cours consacrés à l'écriture. Et je m'aperçois qu'il bouleverse le champ des connaissances sur la façon dont était abordée l'écriture.
Alors, ce sont les dernières leçons que vous avez publiées en 2012.
Avec Jean-Claude Coquet.
Avec une sorte de retard, pourrait-on dire, puisque ce sont des œuvres posthumes qu'on découvre tardivement. Alors, Émile Benveniste, il faut le dire peut-être pour nos auditeurs, c'est un très grand linguiste qui a été professeur au Collège de France, surtout dans toute cette période de l'après-guerre, qui a structuré, pourrait-on dire, le champ de la linguistique en France pendant de très nombreuses années, qui a de nombreux élèves. Et cette question, vous l'abordez aussi d'une autre manière avec vos collègues, donc dans ce livre publié chez Fiction et compagnie, puisque vous faites un essai de linguistique dans ce livre, mais également une sorte d'essai biographique autour d'Émile Benveniste qui... selon vous, a des particularités, comme toujours, quand on s'intéresse à la biographie, et en particulier son changement de prénom, puisqu'il s'appelait Ezra, et qu'il a choisi, une fois reconnu d'ailleurs assez tôt, il a choisi de s'appeler Émile, arrivé en France. Il venait d'où exactement, Émile Benveniste ?
Alors, Émile Benveniste est né en 1902 à Alep, et dans une famille, donc, son père et sa mère étaient instituteurs de l'Alliance israélite universelle, qui est cette institution qui
créée en France
dès le début du siècle et qui se consacre à diffuser la langue française, l'enseignement du français et l'enseignement de toutes sortes de matières en français à l'étranger. Donc
Et on peut dire que c'est une sorte de... c'est un anachronisme de dire ça. Oui. Une des figures du soft power français de l'époque, puisqu'on avait à la fois la mission laïque d'un côté, qui créait des institutions scolaires. On avait aussi les pères des écoles chrétiennes qu'on avait chassés avec les congrégations qui s'étaient installées, Notre-Dame de Sion ou d'autres, qui s'est installé au Moyen-Orient, et l'Alliance israélite universelle. Et tout cela, c'était un dispositif assez complet pour pouvoir former en français des élites.
Exactement.
Ou des futures élites de ces pays-là.
Exactement. Et je pense que la mission laïque française est même héritière de l'Alliance israélite universelle. Et donc, Émile Benveniste est né voyage avec ses parents, de ville en ville.
Il parle en français. Il vit en français dans sa famille.
Sa langue maternelle est le français. Sa mère est d'origine lituanienne, c'est l'Empire russe à l'époque. Son père est turc. Et donc, c'est dans le domaine de l'Empire ottoman qu'ils sont de nationalité ottomane. Et donc, ils ne fonctionnent qu'en français. C'est assez particulier. C'est l'héritage de la fin du 19e, la diffusion du français dans la fin du 19e siècle. Mais c'est aussi cette situation particulière de l'alliance
israélite universelle.
C'est ça.
Victor Massé de Lépiné.
Oui, tant qu'on est au repère un peu biographique sur Émile Benveniste, ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est le choc qu'ont pu constituer ces cours qui ont été publiés donc en 66, problématique générale de linguistique. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu ce moment dans votre discipline, donc la linguistique, et peut-être plus largement, puisque Benveniste avait cette particularité, ou en tout cas ce trait de caractère dans sa discipline, de beaucoup échanger avec les autres disciplines. Et d'ailleurs, dans ce livre, on a une psychanalyste, un écrivain, un sanskritiste, etc.
Tout à fait. Donc, Émile Benveniste avait la chaire de grammaire comparée depuis 1937 avec une interruption pendant la guerre, où il a été déchu de sa nationalité et donc où il a perdu son poste, et où il a dû se cacher en Suisse, etc., où il a perdu sa documentation puisque son appartement a été pillé. Et depuis 27, il occupait une chaire depuis 1927 à l'école pratique des hautes études. Il enseignait donc la grammaire comparée. Émile Benveniste est spécialiste au départ de langue indo-iranienne, d'indo-européen. Et donc, comment dire très rapidement, disons que la grammaire comparée est née parce qu'on s'est aperçu que plusieurs langues indo-européennes avaient de mêmes formes, alors que les peuples étaient très différents. Et donc, il y a eu ce paradigme de recherche qui a été construit sur l'indo-européen. Donc, Benveniste est spécialiste de langue iranienne, mais alors qu'il va faire des enquêtes, il fait des recherches de détails extrêmement poussées, il intègre toujours ses recherches de détails extrêmement précises dans un ensemble et dans cet ensemble qui est la linguistique générale. C'est-à-dire, il veut comprendre comment cette langue d'accord fonctionne, mais cette langue-là, elle est bien dans un ensemble, et comment le langage fonctionne pour l'homme. D'où tout son développement sur la subjectivité dans le langage, sur l'énonciation. Et donc, c'est pas séparable chez lui. Alors, pour parler de la sortie en 1966 de Problèmes de linguistique générale, et ça, Pierre Noran nous l'a répété, c'est que lorsque évidemment, son enseignement au Collège de France était suivi par un petit nombre de personnes, et dès que les problèmes de linguistique générale sont sortis, évidemment, il a eu des auditoires
considérable.
Pierre Nora qui a été l'éditeur des
problèmes de linguistique générale.
C'est intéressant parce que c'est aussi la période où les sciences humaines ne se plaignent pas comme elles se plaignent aujourd'hui d'être méprisées par la presse, méprisées par les élites et en particulier les élites politiques. C'est un moment très une sorte de floraison, oui, pourrait-on dire, de ces sciences humaines. Et Émile Benveniste y participe au même titre que à la même époque dans un autre espace géographique, Noam Chomsky, qui est aussi un grand rénovateur de la question de la linguistique. Tous ces gens-là sont écoutés et ils ont une audience qui va bien au-delà que l'audience que l'on pourrait imaginer pour, comme vous le disiez, un séminaire du Collège de France ou de l'École des études,
sûr,
etc.
Bien sûr, tout à fait. Avec les problèmes de linguistique générale, effectivement, il aborde plusieurs questions qui intéressent l'ensemble des sciences humaines. Il y a un lien avec la psychanalyse, avec la subjectivité dans le langage, évident, et avec l'histoire, bien sûr.
Victor Massé de Lépiné.
J'allais justement vous interroger là-dessus. Quel est le lien de Benveniste à l'histoire comme discipline ?
Je réponds directement à ça. C'est par la philologie, je dirais, et l'étymologie. C'est-à-dire que la linguistique, au départ, c'est la philologie. Et Saussure a justement se distant de la simple philologie et l'étymologie pour poser le système de la langue et donc le linguistique. Et mais Benveniste n'a jamais rompu, bien sûr, n'importe quel linguiste ne rompt pas avec toute l'activité philologique et étymologique. C'est cela le lien, l'histoire, je dirais.
Mais pour reparler de l'écriture, l'histoire fait de la naissance de l'écriture, du moment de l'écriture, la séparation entre les temps préhistoriques et le temps historique. Et Benveniste, j'ai cru comprendre en lisant, ne fait pas de l'écriture un moment, mais semble considérer que à partir du moment où il y a langage, et il y a langage depuis qu'il y a homme, puisque, dit-il, on ne connaît pas d'homme sans langage.
Exactement.
Et l'écriture est intrinsèque, enfin, ou consubstantielle au langage même. Donc, est-ce que, par exemple, ça bouge des frontières qu'on a établies dans l'histoire?
Irène Fenoglio.
Il s'est attaqué là à un problème. Benveniste fonctionne par problème. Hein. Il pose des problèmes, d'où le titre. Et il s'est attaqué là à un problème extrêmement difficile. Dans la tradition, on considérait l'écriture comme le calque de la parole. Saussure le considère comme ça. Martinet dit que l'écriture, ce n'est pas un problème linguistique, etc. Et lui, il vient, il veut comprendre et il dit... il se rend compte, donc il commence à voir les hommes dans les cavernes et il dit mais lorsqu'il dessinait, il dessinait déjà une narration, donc l'écriture est là ce n'est qu'ensuite que l'écriture va, pour plus de commodité, les hommes vont faire en sorte que l'écriture s'adapte à la langue. Et surtout ce qu'il dit, enfin Marcel Cohen, le linguiste, l'avait déjà dit auparavant, mais il insiste bien sur ce fait que c'est une véritable révolution, une révolution qui arrive en même temps, à des moments différents, mais dans des endroits différents, et chaque fois d'une façon différente. Mmh. C'est-à-dire que l'écriture est chaque fois créée par des peuples de façon différente et en des temps différents.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, mais ardu pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas du tout spécialiste de linguistique, c'est de comprendre pourquoi, et on va peut-être terminer avec vous là-dessus, Irène Fenoglio, pourquoi, au bout du compte, ces cours, qui sont des cours des années 60, de la fin des années 60, parce que vous les avez publiés en 2012 et vous continuez à publier deux inédits dans ce Autour des mille Benvenistes que vous publiez au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, pourquoi ces cours révolutionnent-ils d'une certaine façon cette notion que les linguistes ont du rapport de la parole à l'écriture, Irène Fenoglio?
Parce que, alors, d'une part, c'est vrai que c'est tout à fait formidable en sciences humaines, c'est-à-dire on découvre des manuscrits inédits. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, en 69, donc cette question a été traitée par Benveniste alors qu'on ne le savait pas. Donc ça je trouve, c'est la merveille des sciences humaines.
Ça, c'est de l'archéologie du savoir.
Exactement. Mais, donc, ce qu'il...
Oui, en quoi sont-ils révolutionnaires ou parce que à 40 ans d'écart, que nous disent-ils parce de très différent de ce qu'on savait auparavant?
Il dit on ne peut pas se suffire pour étudier l'écriture d'étudier la langue écrite, de la décrire. Ça, il faut le faire, il faut le comprendre. Mais il dit l'écriture finalement auto-sémiotise la langue et c'est parce qu'il y a l'écriture qu'il y a la linguistique, le linguistique. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut construire une linguistique à partir de l'écrit. Il dit à un moment, il disait avant, l'esprit ne contient jamais de forme vide, de concepts innommés. Et là, il dit, la pensée est toujours, à quel que soit son niveau, informée d'écriture. Essayer de penser sans écrit,
ça n'est pas
c'est
possible.
Ça qu'il dit, ça paraît... absolument, ça nous apparaît normal, mais on se le disait pas. Donc c'est toute cette transformation.
C'est ce passage permanent, justement, cet aller-retour permanent.
Exactement.
Entre la pensée, la parole, et de l'autre côté,
exactement,
l'écriture qu'il pense justement dans ses travaux.
Exactement. L'écriture est à la fois une perte dans la tradition, on perd la parole vive, la lettre et l'esprit, et c'est à la fois un ajout non nécessaire, mais qui est devenu nécessaire, dont on ne peut plus se passer.
Victor Massé de l'Épinay.
Non, moi je trouve ça passionnant toutes ces questions. Je me suis penché un peu sur avec Nitard dont on va reparler, mais je voudrais revenir encore sur le rapport de Benveniste à l'histoire. J'ai cru comprendre, oui. vous m'arrêtez si je me trompe, que Benveniste établissait un distinguo entre le discours et le récit, deux types de oui. langage. Et je crois qu'il met l'histoire du côté du récit. C'est-à-dire un langage où il n'y aurait ni je, ni tu, ni ici, ni maintenant, une sorte de récit immanent et complètement objectif. Et ça paraît aujourd'hui un peu de sujet au moins à discussion, pour ne pas dire à controverse.
Surtout, on travaille beaucoup sur cette question de l'écriture de l'histoire depuis voilà. maintenant une quarantaine d'années.
Oui, oui. Alors d'abord, il faut reprendre que il institue, par rapport à Saussure, il l'avance. Saussure a institué le système de la langue, a fait comprendre que chaque langue avait un système et qu'il y avait plusieurs langues, chacune avec son système. Et lui dit, mais ça ne suffit pas, parce que le signe, donc le signe ne suffit pas à nous faire comprendre. On parle avec des phrases, on ne parle pas avec des signes. Et donc, pour comprendre la phrase, c'est le discours, c'est l'énonciation. Le sens ne vient que dans l'emploi. Et c'est toute sa problématique de son invention, je dirais, de le sémiotique et le sémantique. Je dis bien le. C'est-à-dire que dans une phrase, ce qui se reconnaît, c'est le sémiotique, c'est-à-dire ce qui appartient au niveau de la langue. Et le sémantique, c'est ce qui est là en mouvement dans la phrase. Ce même mot que l'on reconnaît partout va prendre un sens différent selon qu'il est placé. Alors après, à partir de là, il y a toute la question des temps du discours. Et c'est de ce procès-là dont vous parlez.
Oui, l'histoire s'écrit au passé simple et sans aucun lien avec l'aujourd'hui. C'est ce que pensait Benveniste.
C'est l'énonciation. C'est l'énoncé de quelque chose qui a été. Ce n'est pas le moment où je parle et où je dis je et donc je parle automatiquement à un tu. Avec un « il » en retrait, dont je vais parler.
Merci Irène Fenoglio d'être venue nous présenter donc ce livre commun. Et comme l'a dit Victor Massé de l'Épinay, il y a à la fois une psychanalyste comme Julia Kristeva, mais aussi un spécialiste effectivement comme Charles Malamud, un anthropologue effectivement, oui. Et ou encore Pascal Quignard et vous-même, ainsi que Jean-Claude Coquet, qui ont participé à cet Autour d'Émile Benveniste, donc publié dans la collection Fiction et compagnie au Seuil. Ça nous permet de nous intéresser à ce personnage de Nitard, donc petit-fils de Charlemagne, du côté de Saint-Riquier, là où on a commencé à imaginer peut-être de l'exhumer, de l'enterrer. C'est une histoire de dépouille aussi, pourrait-on dire.
Oui, c'est Saint-Riquier dans la baie de Somme, c'est là d'abord où on l'a retrouvé, là où il était enterré, et c'est là qu'on lui a rendu un hommage au mois de novembre. Alors Irène Fenoglio y était, elle me le disait tout à l'heure, et Pascal Quignard aussi y était, et c'est lui qui nous sert un peu de fil rouge dans ce documentaire, puisqu'il a écrit un texte qu'il a dit dans l'abbatiale de Saint-Riquier, et c'est lui qu'on va entendre en premier dans l'extrait qu'on va écouter maintenant.
Carolus Magnus, Carol der Große, Charles le Magne. Si je parle désormais tour à tour, latin, allemand, français, c'est parce que le règne de Charlemagne constitue l'instant immédiatement antérieur à la divergence de ces trois langues.
Où est donc Nitard ?
D'ailleurs, il n'avait pas de drapeau. C'est presque une commande qui lui avait été faite. C'était celle de rédiger les serments de Strasbourg qui visait à réconcilier deux petits-fils de Charlemagne. Et il lui fallait que ce serment soit compris des troupes qui étaient là, qu'elles soient, on va dire, allemandes, tudesques ou françaises.
Je me suis intéressé à cet homme dont on parlait peu, parce qu'on parlait des serments de Strasbourg, comme si les serments avaient été conservés comme une charte ou un document diplomatique. Or, ils sont conservés dans le récit de Nitard.
Mais où est donc Nitard ?
Arluf dit « Nitard a été enterré dans un sarcophage de pierre qui fut celui de son père, sur, en haut des marches de la Bastille de Saint-Riquet. J'ai donc aidé les étudiants à enlever le couvercle du sarcophage.
Ce qui l'authentifie, c'est ce crâne, parce que, alors qu'il a été tué lors d'une bataille contre sans doute les Normands, on voit là la blessure sur son crâne, en sachant qu'effectivement, c'est sous ce crâne qu'ont été pensées la possibilité et le fait d'oser écrire une langue qui était une langue parlée, hein, qui était le français, et il a fait ce saut, je dirais, épistémologique, d'oser l'écrire.
De la pluralité des parlures, car on devait parler du proto-picard, du proto-normand, etc. Bien sûr, il fait une langue qui est mémorable. On lui doit beaucoup. C'est pour ça qu'on peut à bon droit dire que c'est le premier écrivain de langue française.
Cinq premières lignes, et c'est lui, il y a 1200 ans.
Voilà, nous allons donc plonger avec vous, Victor Massé de l'Épinay, avec Véronique Samouilov, dans la proto-langue française, pourrait-on dire, avec Anne Potier, Régine Lejean, Pascal Quignat, Bernard Sicriquiglini, Jacques Dulfy et Paul Christiani, tous ceux qui participent à ce documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Et on continuera avec vous toute la semaine. Mercredi, nous discuterons de la façon dont on a créé de nouveaux mots avec la révolution industrielle au 19e siècle, lexicologie et terminologie autour de ces nouveaux mots du vocabulaire technique, pourrait-on dire. Et jeudi, eh bien, on débattra un gros sujet. Des réformes de l'orthographe, l'histoire des réformes de l'orthographe, avec nos invités jeudi pour conclure cette semaine. Merci à vous, Victor Massé d'Épinay, et à demain pour écouter ce documentaire. Nous avons parlé ce matin, outre le feuilleton, l'épisode numéro 24 de la Fabrique de la Guerre froide autour du coup de Prague en 1948, du livre de Jenny Raflick, Terrorisme et mondialisation, approche historique, qui sort dans la Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard dans 3 jours, le 25 février, et puis ensuite du livre collectif dirigé par Irène Fenoglio dans les collections Fiction et compagnie avec Jean-Claude Coquet, Julia Kristeva et Charles Malamud, ainsi que Pascal Quignat, autour d'Émile Benveniste. C'est publié au Seuil. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bonne Bolivier et Aurélie Marcet. Nous avions la chance d'avoir avec nous à la technique aujourd'hui Clément Daté et à la réalisation Véronique Samouilov. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette émission sur le site internet de France Culture pendant un an après sa diffusion. Vous pouvez l'écouter de façon indéfinie avec ce nouveau site tout nouveau, tout beau. Vous pouvez également donc laisser des commentaires sur ces pages en allant cliquer sur la petite enveloppe, ainsi que discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. We'll be right back.